vous écoutez Radio FMR. Nous sommes le dimanche 1er février 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, et à 15h, du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR, cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le magazine à peu près culturel que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Bah ça, c'est pas tout, mais je vais pas tout spoiler. Hein.
Non.
C'est pas le genre de la maison.
Mais justement, parce que ça sort en février.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Reich et la participation exceptionnelle de JB.
Et ben non, même pas.
Oula, j'ai un problème de câble, j'ai un problème de micro, voilà, on va y changer du coup.
Du coup, même pas de JB, puisque en fait, JB, il n'aura pas le temps d'arriver. En général, il sort à midi pour arriver à 12h30 en studio. Là, entre Toulouse et Angoulême, je crois qu'il n'aura pas le temps de revenir à 14h à temps pour prendre la suite de son travail. Donc du coup, on le fait à deux et comme on peut. Bonjour moitié... Thomas.
Bonjour Xavier, c'est le supplément aujourd'hui, puisque la moitié n'est pas là.
Voilà. Mais heureusement, non seulement nous sommes au poste, nous sommes en direct à Angoulême, dans le département des Charentes, mais en plus, on est très heureux d'y être, non seulement pour la première fois en direct pour faire une émission complète, mais aussi pour découvrir un petit peu ceux qui, eux, vivent dans les Charentes toute l'année, et savoir comment ils vivent en fait le festival d'Angoulême, de la bande dessinée, puisqu'il y a d'autres festivals à Angoulême. Il n'y a pas que ça, heureusement, donc ils vont peut-être en parler. Donc on est très heureux d'avoir avec nous le prix... les membres du jury du prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente qui nous reçoivent au Conseil Général de Charente. On est fort bien reçus. Alors la première chose que je veux savoir, et je m'adresse donc aux quatre jeunes qui sont là, c'est est-ce qu'on doit vous voyez le Conseil Général des Jeunes de Charente ou est-ce qu'on doit tutoyer le membre du prix Actua BD? Alors je vous en prie. Astrid, peut-être.
Il n'y a pas besoin de nous vouvoyer. Hein. On a que 13 ans ou 14 ans. Et pour les membres du prix Actua BD, c'est pareil.
D'accord. Baptiste, toi, ça te gêne le vouvoiement?
Ah non, pas du tout.
Plutôt te tutoyer dans ce cas-là. Hortense.
Moi, ça va, c'est le tutoiement.
D'accord. Et Guillaume?
Non, pas du tout, ça ne me dérange pas.
En tout cas, merci de nous recevoir, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on est très très bien accueillis. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on remarque chaque année, que l'on disait à chaque fois dans notre émission, c'est que dans les Charentes et en Charente, il y a vraiment une culture de l'accueil. Et c'est vrai que là-dessus, on n'a rien à redire. On est vraiment très très bien accueillis. Je suppose que vous y vivez toute l'année. Vous habitez dans quel coin puisque en fait vous êtes dans l'ensemble du département. Y en a qui vivent ici à Angoulême même.
Oui, Angoulême.
Toi pour Guillaume, oui.
Non, moi plus la Couronne.
D'accord, la Couronne donc c'est un peu entre guillemets la banlieue, c'est dans l'agglomération.
Oui.
Voilà. Baptiste.
Non, moi j'habite à Cognac.
Et tu habites à Cognac, c'est à 30 km, 40 km.
Ouais, à peu près.
Ouais, et combien de degrés dans la bouteille? Astrid
Non, moi j'habite pas Angoulême ni à Cognac, j'habite plutôt dans en campagne, à 30 km d'Angoulême.
D'accord. Vous venez, toi du coup, tu es à la campagne, tu es à combien, quelle distance à peu près ton collège quand tu vas le matin?
Je suis à 5-6 km.
D'accord.
Moi je mets un quart d'heure pour y aller.
Ok.
Moi je mets une demi-heure.
Et 10 minutes en bus.
D'accord. Tout ce temps-là que vous passez dans ce cas-là en bus, vous en profitez pour quoi faire ? Vous révisez en général ?
Non, pour parler avec des copains dans le bus.
D'accord. Vous essayez un petit peu d'émerger. Vous finissez les devoirs des fois ? Vous n'avez pas eu le temps la veille ?
Non.
Non, non, non. Vous pouvez
pas.
Dans la voiture. Politiquement, vous pouvez pas le dire.
Voilà, ouais.
Exactement. Oui, parce que donc ils sont élus. Vous avez été élu donc en octobre dernier. C'est un mandat de 2 ans, je crois.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui.
En tant que conseiller général des jeunes de Charente, quel type de décision vous prenez ? Quelles sont en fait vos missions ?
C'est plutôt des choses pour améliorer la vie des collégiens de Charente, pour plutôt le confort, l'éducation un petit peu.
D'accord.
Parce qu'on est répartis dans plusieurs commissions, ce qui nous permet d'avoir chacun nos avis, nos choix. Et ces choix, on les a demandés avant aux jeunes de notre région. Mais c'est ça, que c'est la vie qui remonte.
Hortense.
Nous représentons les jeunes de notre collège, c'est pour ça qu'on a été élus par eux et on met des idées pour améliorer.
Puis bon, c'est un peu comme en vrai, hein. On est élus par le collège et après on est répartis par commission pour...
Vous avez été élu en vrai, hein.
Comme en vrai, ouais.
C'est pas comme en vrai, vous avez été élu en vrai
par les collégiens, par notre collège. Par une urne, tout le protocole.
D'accord. C'est quoi à peu près, puisque donc vous faites partie chacun de commissions particulières, quelles sont les missions auxquelles vous avez décidé de vous intéresser ?
Donc moi, je fais partie de la commission choix ouverts. C'est des choix ouverts. On a culture, sport, Europe et la vie du collège. Donc ça peut être plusieurs choses. C'est pas bien arrêté, la mienne.
D'accord.
Pareil, je suis aussi dans le choix ouvert d'action.
Ok.
Moi, je me suis plus dirigée vers le développement durable pour améliorer, pour proposer un agenda 21 au sein des collèges et pour permettre d'améliorer la vie de tous les jours en confort et en écologie, etc.
Et moi, je suis dans la communication, donc tout ce qui est, on fait la transmission, tout ce qui est pour les caméras, on étudie, fait transmettre l'information aux collégiens par multiples choix.
Et vous êtes parmi nous pour donc désigner le prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de décerner d'autres prix au cours de votre mandat pour l'instant ?
Non, ça a été une nouvelle expérience qui se souviendra, je pense.
Ouais, pareil.
D'accord. Alors, nous avons un cinquième jeune parmi nous, qui est Didier Passamonique, qui est là pour...
Bonjour Thomas.
BD. Bonjour Didier. Alors, tu vas nous dire quelques mots sur ce fameux prix Actua BD Conseil Général des Jeunes de Charente.
Oui, alors en fait c'est une suggestion d'un Charentais qui travaillait dans le contexte du Conseil Général des Jeunes. Et nous, on trouvait pas tant cette institution qui permet aux jeunes de s'intéresser à la politique qui est... tellement décrié aujourd'hui. Et donc, comme il y avait le festival, on s'est dit que c'était une bonne idée d'interpeller de jeunes citoyens comme ceci pour désigner quelle est la bande dessinée qui peut éventuellement correspondre aux intérêts de leur génération et qui peuvent correspondre à leurs préoccupations. Et l'intérêt d'Actua BD, c'est que c'est un site qui est extrêmement fréquenté. On a 140 000 lecteurs uniques par mois. Et finalement, ça nous permet de donner un rayonnement à ce prix tout en ayant un retour de jeunes de la région d'Angoulême, c'est-à-dire des jeunes qui ont une culture BD un petit peu plus élevée que le reste de la moyenne nationale grâce précisément au festival.
D'accord. Justement, à ce sujet, qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez des BD régulièrement ?
Moi, personnellement, pas trop. Je suis plutôt roman. Mais il m'arrive de lire quand même quelques BD qui sont assez connus.
D'accord.
Moi, j'adore les BD. J'en ai beaucoup et j'adore les lire.
Oui, moi aussi, je lis récemment des BD.
Oui, moi aussi, les BD.
Alors, dans ce cas-là, vous les empruntez à la bibliothèque, vous les achetez ou vous les empruntez à vos parents ?
Je suis pas sûr que les BD que lisent leurs parents, ce sont les BD qui les intéressent. À vous de nous dire ça.
Moi, c'est ouais, des fois j'emprunte des BD à mes parents, par exemple Tintin, ça j'aime bien. Et sinon, soit je les achète, soit je demande à mes copains, enfin, on s'arrange.
Moi, je les achète durant le festival et puis après, par la suite de librairie. Ou...
Moi, c'est mes parents qui m'empruntent mes BD.
D'accord. Et c'est quel genre que vous lisez d'habitude ?
Oh, un peu de tout, science-fiction, histoire, un peu de tout.
Moi, plus humour, enfin, ouais, humour.
Humour, toute la collection Barbou, et puis après, tous les grands classiques, quoi.
D'accord. Mais dans ce cas-là, vous êtes plutôt série ou one-shot ? Vous savez, histoire complète en un album ?
Bah, moi j'aime bien les séries parce que ça laisse un peu de suspense à la fin des BD, on a vraiment envie de savoir la suite.
Ouais, moi aussi c'est plus série parce qu'on attend vraiment le deuxième tome et on a le temps de comprendre l'histoire ou bien de la relire si on n'a pas compris.
Ouais, série.
Et est-ce que vous avez d'autres centres d'intérêt ? Est-ce que vous êtes aussi jeux vidéo ? Est-ce que vous êtes cinéma aussi ?
Cinéma, pas particulièrement, jeux vidéo non plus, moi c'est plutôt la musique.
D'accord.
La musique à fond et le cinéma aussi.
Moi cinéma, ouais, ça me...
Musique et puis oui, jeux vidéo.
C'est quoi le... Est-ce que vous, quand vous faites un choix, vous préférez plus acheter un jeu vidéo ou 3-4 BD ?
Moi, personnellement, 3-4 BD.
Pareil. Ouais, pareil.
Ouais, pareil.
3-4 BD.
Et en général, les choix, puisque vous êtes tous au collège, donc vous avez accès au CDI, est-ce que les choix en bande dessinée sont plutôt éclectiques ou plutôt maigres ?
Bah, ça dépend des collèges aussi. Plus ils sont gros, bien sûr, et plus il y a le CDI est grand et plus il y a de BD, bien sûr. Moi, je fais partie d'un petit collège, donc il n'y a pas énormément de BD. Mais il y en a quand même un petit choix.
Nous, en général, c'est les classiques. Et puis, il y en a des fois qui sortent du lot, mais souvent, ça reste des classiques.
Nous, c'est des classiques et on a quelques nouveautés qui sont très agréables à lire.
Ouais, voilà, c'est plutôt les classiques. Et puis après, c'est toujours les BD qu'on pourrait étudier qu'on peut étudier en classe. Quoi. Mm. Astérix Obélix pour le latin ou... Voilà.
D'accord. En soi, puisque vous avez la chance, enfin pour tous les BDphiles, vous avez la chance de vivre donc dans le département, d'être proche d'Angoulême. Est-ce qu'il y a régulièrement des animations justement autour de la bande dessinée ou tout se passe au moment du festival en soi ?
Non, je pense qu'il y a quand même quelques regroupements. Enfin, si on peut appeler ça des regroupements sur la bande dessinée, mais le plus particulièrement et le plus connu, c'est le festival.
Moi, je dirais plus les 4 jours, c'est franchement le gros du gros. Puis après, bon, bah, il y a les autres festivals qui regroupent Angoulême, quoi. Le Cercle des Remparts.
Voilà, qui est un rassemblement de vieilles voitures. Oui, voilà. Je suppose qu'il y a aussi les gastronomades, oui. Ce genre de trucs. Il y a combien d'événements qui ont lieu, sur lesquels vous vous déplacez ?
Les plus importants, je pense que c'est les gastronomades, les festivals de la BD. Et je pense que
c'est, ouais, c'est tout.
Et le circuit des remparts aussi, c'est intéressant.
Ouais. D'accord. Avant Ludoland.
Oui. Okay.
Là, effectivement, donc on est en plein dedans. Accessoirement, dans les séries que vous voyez, quand il y a une bande dessinée qui arrive après à la télévision ou qui arrive au cinéma, vous avez envie de vous précipiter dessus ou non, pas vraiment?
Pas particulièrement, parce que la BD, c'est, pour moi, ça reste à lire. Et c'est un univers, alors qu'à la télé, il n'y a pas cet univers.
Moi, ça dépend de la BD, mais en général, je vais la voir et souvent, je suis déçue.
Ouais, moi, ça m'intéresse quand même de voir comment elle a été produite au cinéma. Parce que ça pourrait être un autre univers, enfin, c'est pas pareil, on va dire.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a quand même un gros changement entre le dessin animé et la BD en elle-même, quoi. C'est pas du tout pareil.
Je suppose quand même que vos activités respectives de conseiller général doivent vous prendre quand même pas mal de temps. C'est un investissement. Mais est-ce que ça vous a titillé de vous dire, ouais, j'aimerais bien aussi en faire de la bande dessinée, de lancer un fanzine, un journal au collège?
Ouais, moi pour le journal, ouais, ça aurait été bien. Enfin,
tu aurais aimé
un peu de l'actualité, ouais.
Ouais, faire un journal au collège, ça aurait été pas mal pour savoir la vie au collège et puis même créer la création, quoi.
Ben, nous, au collège, il y a un journal et puis il y a quelques élèves qui aiment un peu dessiner de la bande dessinée. Et donc, dans ce journal, on retrouve des créations des élèves.
Non, nous, il y a déjà eu pas mal de projets, mais ça s'est jamais réalisé.
Ouais, et nous aussi, il y a des élèves de 3e ou de 2e qui font des petites BD qui sont disponibles au CDR.
Est-ce que vous allez consulter sur Internet des blogs BD? Est-ce que vous êtes mis justement à lire des blogs BD?
Pas trop, non.
Bah, en fait, personnellement, je me fais mon avis à moi et l'avis des autres, je m'en fiche un peu sur les BD, en fait. Enfin, sauf quand, dans ces cas-là, par exemple, en tant que jury, eh ben, on prend tous les avis des autres, mais quand je lis une BD, j'ai pas besoin d'aller voir si des gens l'ont aimé ou pas.
Ouais, voilà. Ouais, moi, c'est pareil, je me passionne pas sur le blog. Après, c'est vrai que je vais sur le site du festival, mais après, pour avoir des infos, quoi.
Alors, on va peut-être à nouveau parler du prix Actua BD. Est-ce que vous êtes tenu au secret? Est-ce que vous pouvez nous dire si ça a été un vote à l'unanimité, le coup de foudre intégral? Comment ça s'est un petit peu passé?
Non, ça n'a pas été à l'unanimité. Il a fallu que, comme on est 4, il y avait partout 2 voix. Et c'est le plus vieux qui avait 2 voix, lui, et qui a départagé.
Qui est le président, alors, ici?
Moi.
C'était Guillaume.
D'accord.
C'était
Guillaume.
Alors, on va peut-être parler des nominés, hein, puisqu'on ne les a pas encore nommés. Donc, il y avait Run pour Mutafukaz, tome 2, édité chez Ankama. Il y avait Hermine, le terrible hacker, tome 1, par Joe.
Dans la collection Joker, c'est chez P&T Édition. Roger et Raoul Jazz Ménard chez Dargo. Hugo et Yann pour Le Grand Duc aux éditions Paquet. Miniki, Mariol et Pop pour Altadonna chez Dargo. Est-ce que c'était des albums que vous avez déjà lus avant qu'on vous les propose dans la sélection?
Non, non.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous seriez allé vers ces albums si on vous les avait pas proposés?
Quelques-uns, oui, mais pas tous. Là, il y a eu 2-3 albums que la première page de couverture m'a pas attiré spécialement.
Et est-ce que c'était la surprise ensuite en découvrant les pages?
Ouais.
Ah, comme quoi, il faut pas se contenter de la couverture.
Faut pas se fier. Après, à une exception près, la plupart sont des séries. Est-ce que du coup, vous avez envie de continuer dans ces séries-là, même si finalement, vous n'avez pas donné votre voix pour?
Oui, quand même. C'est bon. Il y a ceux qui ont été élus, faut quand même les continuer, quoi.
D'accord. Didier, ton avis personnel, toi qui as lu, toi tu les as lus ou non?
Mais en fait, il faut savoir donc que le jury a reçu une présélection de 5 albums pour leur éviter tout simplement de lire les 4000 BD qui sortent dans l'année. Hein, c'est ça la raison de cette présélection. Et cette présélection émane de la rédaction d'Actua BD. Il y a 40 journalistes. Et je vais faire un aveu, c'est que j'ai pas lu tous les albums qui étaient dans la sélection. Donc j'en ai lu 3 sur 5. Il n'y en a
aucun d'Actua BD, je crois qu'il les a tous lus. Hein, puisque le fonctionnement
mais...
d'Actua BD, justement, dans les chroniques, c'est qu'il y ait des journalistes qui sont spécialisés par maison d'édition.
Voilà, on a une large rédaction. Et puis encore une fois, qui lit 4000 BD dans l'année ? Personne. Donc finalement.
Même Gilles Ratier a abandonné, je crois.
Oui, c'est ça. Gilles Ratier, l'auteur du rapport qui fait le décompte de toutes les BD. C'est pas possible en fait, pratiquement. Et donc au fond, c'est un peu pour ça qu'on est là. C'est parce que on a chacun nos expériences particulières et on les fait remonter auprès des lecteurs au sein d'Actua BD. Et puis après, les lecteurs, un peu comme les membres de ce jury, peuvent faire leur religion, si je puis dire. L'intérêt de cette sélection, c'est effectivement sa diversité, parce que on a des choses très classiques et puis à côté de ça, des choses assez déjantées. Dans la présélection qu'on a faite, il faut savoir que on avait des mangas, on avait des comic books, donc il y a eu toute une
transgenre aussi.
Transgenre, voilà. Enfin, il y avait toutes sortes de bandes dessinées et je dois dire que je suis assez content du choix qu'ils ont fait.
D'accord. On va en parler après une interruption musicale avec les Zootons, Tired of Hanging Around.
Hanging around.
sommes donc en direct d'Angoulême, dans le Conseil Général de la Charente, avec donc les élus du Conseil Général des Jeunes de Charente et aussi membres du jury du prix Actua BD Jeunesse, donc qui nous reçoivent, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'exprimer un peu leur vie de jury. Puisque c'est vrai que Thomas le faisait remarquer en micro, Astrid, elle disait qu'elle était plus roman. Est-ce que du coup, tu aurais envie de te lancer maintenant plus dans la lecture de bande dessinée ?
Oui, parce que déjà, comme certaines BD, souvent on a reçu les tomes 1. Mmh. Et celles que j'ai appréciées, ben, j'ai envie de continuer la collection.
Qu'est-ce qui te gênait finalement dans la plupart des bandes dessinées jusque-là ? C'était, t'avais pas d'attirance naturelle ou c'était une histoire, la plupart des histoires que tu avais lues qui manquaient de corps par rapport au roman ?
Les BD, ce que j'aime moins, on est un peu obligé pour comprendre l'histoire, c'est de regarder et d'essayer de comprendre les images. Alors que le roman, on fait dans sa tête et moi je préfère le roman.
Est-ce qu'il y en a qui préfèrent, je sais pas, parmi Baptiste, Hortense et Guillaume, vous préférez justement plutôt avoir apprécié les images ou imaginer avec les images dans votre tête quand vous lisez ?
Imaginer, moi je préfère imaginer.
Non, moi je préfère les images. Moi je préfère les images.
Imaginer c'est mieux, mais bon, les romans j'aime pas trop quand même. J'aime pas trop ça quand même.
Vous lisez justement des bouquins que moi, Thomas, on ne sait pas lire, c'est-à-dire des bouquins sans images, avec des textes écrits.
Oui.
Toi, je suppose, oui. Mais vous en lisez à peu près combien, je veux dire, hors de vos lectures obligatoires scolaires ?
Dans l'année ?
Oui, ouais.
Plein. Non, mais plein, des gros bouquins.
Rapproche le micro, s'il te plaît.
Une dizaine minimum.
Ah oui, quand même, oui.
Bon, ça lecteur. Dépend de la grosseur après.
On dit épaisseur en général, épaisseur, oui. Parce que quand on dit qu'un auteur qu'il est gros, il aime pas trop.
Quand on dit qu'il est épais, c'est pas terrible non plus.
Oui, non, mais c'est dans un autre sens, dans ce cas-là, bien évidemment. C'est toute la subtilité de la langue française.
Et donc, vous nous disiez tout à l'heure, vous nous disiez tout à l'heure que le choix du prix avait été décidé entre deux bandes dessinées, donc. Est-ce que, avant de divulguer le fameux prix, est-ce que vous pouvez nous dire entre les deux, quelles sont les deux BD que vous disputiez?
Les deux BD ont été Moutafoukaz par Ron et Le Grand-Duc par Yann.
D'accord. Alors combien de temps ? Est-ce qu'il vous a fallu beaucoup de tours ? Vous avez pris une décision à l'unanimité ou à la majorité simple ?
Non, on a beaucoup réfléchi. Après, on en a éliminé on en a mis trois. Et puis après, on a réfléchi sur les deux. Et puis après, on a beaucoup parlé sur les deux, les dessins, tout ça. Et après, on a voté chacun son tour par vote.
Je pense que ce qui est ressorti, c'est surtout le graphisme qui a été en détail et bien précis par rapport à la BD et au texte.
Et on a trouvé vraiment, notre choix a été très vite pour les deux, mais on a trouvé qu'ils ne jouaient pas dans la même catégorie en fait. Et qu'on leur aurait vraiment décerné un titre chacun, mais il n'y en a qu'un et c'était dur de choisir.
Pour vous, ces deux albums qui ressortaient, c'était des véritables ovnis ou c'était plus dans une mouvance que vous, d'autres livres que vous aviez vus à côté, ou c'était vraiment des coups de cœur que vous n'aviez jamais vus à côté?
Justement, Le Grand-Duc, c'était plutôt un classique, entre parenthèses, parce que c'est un style de BD qu'on connaît bien. Mais Moutafoukaz, c'était un ovni, oui. Donc ça, c'était un coup de cœur, par contre.
On est tout à fait d'accord.
Oui. Dans ce cas-là, monsieur le président, pouvez-vous s'il vous plaît me dire, en décachetant cette enveloppe que vous tenez déjà ouverte devant nous, me dire qui est le lauréat de ce prix ?
Donc le vainqueur est le Grand-Duc de Yann, édition Paquet. Voilà. Et il y a une autre mention pour Moutafoukaz, qui est notre coup de cœur. Voilà.
Alors vous êtes deux filles et deux garçons, Est-ce qu'il y a eu une session entre les deux ou c'était pas du tout comme ça que ça s'est décidé, les deux voix contre deux?
Oui, un peu.
C'est-à-dire comment? Parce que c'est vrai que dans Mutafuka, c'est deux garçons que l'on suit, mais dans le Grand-Duc, il y a l'histoire donc de ces femmes aviatrices de l'URSS. Et c'est ça qui a motivé finalement les thèmes abordés.
Bah non, mais c'est surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment tous aimé les deux histoires, quoi. Mais voilà, il y en avait une où il y avait de l'humour et l'autre où c'était vraiment jusqu'au bout, il fallait être dedans. Donc non mais on était quand même d'accord, on s'est pas battu quoi.
Ouais, tout à fait d'accord, c'est joué à une voix en fait, donc c'est vrai que ça c'était...
Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre quand même une mention sur Mutafukas, parce que pour une voix près, on s'est dit que c'était pas...
Et justement, nous avons les auteurs qui sont arrivés, qui sont en direct... c'est Ron et Hugo. Bonjour, bienvenue. Venez avec nous. on va plutôt vous mettre avec le jury. Ah oui, non, là, c'est pas le bon sens. On va plutôt faire
demi-tour.
Le tour. Voilà, le temps qu'on se mette en place.
Nous saluons les deux auteurs à qui le jury a décerné des prix. Donc nous avons Romain Hugo, le dessinateur du Grand-Duc.
Bonjour.
Ainsi que Ren, le papa de Mutafukas.
Oui, c'est moi.
Bonjour. Donc est-ce que vous êtes au courant que vous venez de gagner?
Pas du tout, moi je débarque.
Bon.
Je me suis laissé porter, c'est une bonne nouvelle.
Nous laissons le président du jury vous annoncer la bonne nouvelle alors.
Donc le vainqueur c'est le Grand-Duc et le coup de cœur qu'on a eu c'est le Mutafukas. Excusez-moi.
C'est une super nouvelle, moi je suis très content. J'étais pas trop au courant, donc la journée a eu son lot de surprises.
Cela te fait quoi que ce soit un prix décerné par des jeunes, justement par des collégiens?
Ça me fait d'autant plus plaisir que je pense que les gens de cet âge-là ne sont pas dans les arcanes de la BD de « oui, il a déjà eu un prix, il a fait ça avant ». Je pense qu'ils sont vraiment au coup de cœur et ils sont beaucoup plus naturels dans leur choix. Donc c'est pour ça que ce sont des prix qui font très plaisir.
Ron, le fait que tu aies eu donc un prix spécial parce que ils ont considéré qu'il fallait vraiment récompenser ton œuvre.
Ça fait plaisir, d'autant plus qu'en ce moment je suis en grosse période existentielle au niveau artistique, donc c'est super quoi, ça me pousse à continuer et à donner davantage. Bon, par contre, j'ai noté qu'il fallait peut-être simplifier un peu le titre. Mais c'est bien.
Je crois que le message est passé.
Donc ça, c'est tout le jury, hein, c'est ça ?
Je vous présente donc dans l'ordre Astrid, Baptiste, d'accord. Hortense et Guillaume. Mmh. Didier, peut-être souhaite rajouter
quelque
chose.
Oui, moi, je voudrais que vous expliquiez... à Romain et à Ron, qu'est-ce qui vous a plu dans leur BD ?
Alors dans le Grand-Duc, c'était le côté historique qu'on a vraiment aimé. Et en fait, c'était original de voir la guerre dans l'angle russe-allemand et pas français-allemand. Dans Mutafukas, on a adoré l'humour, l'histoire, les graphismes. Donc le Grand-Duc aussi nous a vraiment beaucoup surpris par ses graphismes c'est même le titre était très bien choisi.
Et facile à dire en plus.
En plus.
Tu es le seul garçon toi hein, dans le jury ?
Non.
Non.
Vous,
est,
Ah oui, oui, oui. Donc, parce que je suis étonné.
Run, ça s'appelle un incident diplomatique, ça.
Non,
quand
non,
même.
Non, 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 parce
oui,
que je suis.
Vu ta coupe de cheveux maintenant. Hein.
Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Parce que je suis étonné. Enfin, en général, quand j'ai des filles qui se présentent à mes dédicaces, c'est toujours soit pour le frère ou soit pour le petit copain. Donc, c'est bien qu'il y ait. Ben là, c'est kiff-kiff, autant garçon que fille, alors. Et bah, c'est bien, tant mieux.
Non, mais est-ce qu'elles ont aimé les filles? On voudrait avoir leur avis quand même.
Ouais, moi, c'est vrai que le côté humour m'a beaucoup impressionné dans Moutafoukaz. Et par contre, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Le Grand-Duc parce que le graphisme était en détail raffiné et il y avait dû avoir de la patience pour faire les avions et c'était bien réaliste en fait.
Moi, j'ai exactement le même raisonnement que Ron, c'est que j'ai très souvent vraiment du public masculin fan d'aviation et quand j'ai des filles, je suis super content et. Et quand c'est pas pour son petit copain ou pour le papa, c'est jackpot.
Surtout que l'histoire que tu racontes n'est pas une histoire très connue. C'est vrai qu'ils ont raison de préciser sur le dessin, puisque c'est rare de voir des avions à Seconde Guerre mondiale où il y a le détail de la moindre antenne qui est présent et tout ça.
Après, c'est un piège. Faut pas que ça devienne un étalage technique. Faut que ça reste quand même une BD grand public. Et même si les détails sont là. Le détail technique ne fait pas un scénario. C'est avant tout une histoire d'homme dans un environnement mécanique très très poussé. Mais si je faisais que des histoires d'avions, de radars, de missiles, de trucs, je pense que ça plairait beaucoup moins.
Et dessiner des avions en dédicace, est-ce que ça fait pas un peu faire la gueule au gars qui est 15e de la file d'attente?
C'est-à-dire, moi je.
Parce que ça prend pas trop de temps justement là.
C'est exactement le même temps pour faire un avion que pour faire une dédicace de personnage. Je demande. Bon, souvent les trois quarts c'est quand même jouer une pin-up. Hein. Les gens c'est ils sont très axés pin-up. Et là ça prend du temps par contre.
En tout cas, merci d'être venu, merci au jury d'être là. Alors, je ne sais pas si vous avez, toi, je crois que tu as le tome 2 du Grand-Duc qui devrait arriver.
Qui est en cours de production intensive, je suis à la planche 13, voilà, vous savez tout.
Elle va te porter bonheur celle-là.
La crise existentielle de Run, est-ce que ça va nuire au
top 3? Là, visiblement, il est en train de lire celui qui est passé devant. Il se dit quand même.
Je regarde le grand livre. La question, la crise. Je fais traverser mon personnage principal, Angelino, par la même crise existentielle que moi. Enfin, donc voilà. Dans le tome 3.
Voilà.
Je sais pas si c'est très clair, mais bon. Ça prendra tout son sens à la sortie, je pense.
D'accord.
Ça, c'est du teasing. On est obligé d'acheter, du coup.
Merci en tout cas.
Merci. En tout cas, félicitations à vous.
Merci à vous.
C'est pas à nous, c'est plutôt donc au Conseil général des jeunes de Charente qui donc a remis le prix. Donc bravo et félicitations à vous. Et ben dans ce cas-là, peut-être on va vous laisser le mot de la fin sur cette partie-là. Je ne sais pas qui veut se lancer, Baptiste.
Merci à vous les auteurs, hein, parce que c'est vous qui nous avez fait découvrir vos BD. Et on est vraiment heureux de vous remercier à notre façon.
C'est à vous aussi de devenir auteur maintenant et de venir nous faire peur. Dans quelques années.
Dans le micro, s'il te plaît.
Donc ouais, merci à vous et puis effectivement si vous avez envie de devenir auteur, c'est très bien, comme ça on aura de la concurrence et c'est vraiment on votera. Du coup nous les anciens on votera pour les petits jeunes.
Mais tu sais c'est pas forcément des auteurs que t'as en face de toi, t'as des futurs politiciens, des chefs d'entreprise, des trucs comme ça. Hein, donc
voir des éditeurs justement, s'ils sont chefs d'entreprise.
Oula, bon des éditeurs.
Et même pire, des journalistes.
Aïe aïe aïe.
Non, avec nous ils ont la paix. En tout cas, merci en tout cas d'être venu en direct pour annoncer donc quel était le prix et merci aux auteurs de s'être déplacés pour le coup.
Merci à vous. Mmh.
éphémère 89.1 MHz avec Actua BD qui va être la rédacteur en chef pour la seconde partie donc de ce supplément week-end en direct d'Angoulême au Conseil Général de la Charente. Ceux qui sont sur Angoulême.
At the alehouse is healthy and warm. Besides, I can tell where I am used well. Such usage in heaven will never do well. But if at the church they would give us some ale and a pleasant fire souls to regale with singing and with prayer all the lifelong day. Nor ever once wish from the church to stray, and the parson might preach and drink and sing, and would be as happy as birds in the spring. Modest Dame Lurch, who is always at church, would not have banded children, nor fasting, nor birch. And God, like a father, rejoicing to see his children as pleasant and happy as he, would have no more quarrel with the devil or the barrel, but kiss him and give him both drink and the barrel. Dear mother, church is cold, and the alehouse is healthy and warm.
In the driver's seat. C'est juste le temps en fait, donc on vous explique, la rédaction Actua BD fait les photos avec les auteurs et le jury. Oh, Le supplément week-end, donc en direct de la Charente, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, 36e édition, avec une présidence double, puisqu'il s'agit de Charles Berberian et Philippe Dupuis, donc qui sont le double président, s'il faut bien ça pour avoir, pour occulter notre omniprésident à nous que nous avons actuellement en France. Mais il n'y a pas que ça, il y a surtout le grand événement, l'équipe d'Actua BD, pratiquement au grand complet sur Angoulême, et que dont on reprend les informations ou pour lequel on participe tout au long de l'année, et ben du coup ils vont pouvoir donner sur le vif en direct et sans avoir à peser leurs mots, mais en disant quasiment en écriture automatique ce qu'ils pensent singulièrement de ce festival. Oui, vous avez entendu.
Avant, on n'a pas précisé, mais la rédaction d'Actua BD est rédactrice en chef de cette édition du supplément week-end.
Voilà, exactement.
Et d'ailleurs, moi, je tiendrais à préciser que je trouve scandaleux qu'il y ait une présidence du Festival d'Angoulême. Étant belge, je pense que ce serait mieux quand même qu'on ait un roi. Donc, voilà.
Oui, on fera un tirage dans ce cas-là début janvier pour l'épiphanie. Bon.
Moi, je suis pour la démocratie, donc ce serait un roi élu, il n'y a pas de problème, mais je préférerais un roi, roi d'Angoulême, je le sens bien, moi.
La proclamation précédemment était à peu près dans ce niveau, à la mairie.
Oui.
Didier, Didier Passamoni, que donc vous avez entendu tout à l'heure, qui est l'un des principaux,
directeur animateur
d'Actua BD et coordinateur, Nicolas Anspach, qui en est son rédacteur en chef. Bonjour Nicolas.
Bonjour Xavier.
Vas-tu bien? Si tu te rapprochais de la sucette dont il a réservé au citron,
comme ça, rapprocher.
Comme ça, là.
Non. Je vais éviter de ne pas la manger, comme ça, mais me rapproche.
Voilà, c'est un petit peu mieux.
Charles-Louis finit de s'installer et d'enjamber la table.
Voilà, Charles-Louis de tourner qui s'approche et qui cherche un casque. Tu as peut-être des problèmes de niveau sonore, je ne sais pas.
Oui, je dois être un petit peu sourd dû aux décibels que Jacques Léna nous a offert hier soir, et donc je cherche un casque à ma mesure.
C'était pas. On va régler le niveau sonore. Tu vas voir, on va le faire. Que dire de plus, Primo, Didier, c'était une première expérience en fait, ce prix Actua BD avec les jeunes.
Voilà, et puis rappelons déjà les lauréats, donc le prix Actua BD Conseil Général des Jeunes a été attribué au Grand-Duc de Yann et
à Moutaf Oukaz, Hugo et Yann.
Voilà, de Yann et Hugo, je sais pas pourquoi, c'est parce que Angoulême, c'est tous les jours à 3h du matin, et on se lève, on dort peu à Angoulême, faut savoir.
Il faut tenir la forme.
Voilà, donc, de temps en temps, le disque dur dérape. Et le jury a voulu donner une mention spéciale, un coup de cœur à Moutaf Oukaz de Run. Donc voilà les deux lauréats.
C'est vrai qu'il est pas très expansif Hugo, mais il semblait vraiment.
Alors petite précision, le Grand Duc a été publié par les éditions Paquet et Run, Moutaf Oukaz de Run est publié par les éditions Ankama. Voilà. On aura tout dit.
C'est amusant parce que finalement tout le monde se plaint que c'est toujours les très gros éditeurs ou ceux du renouveau de la bande dessinée française qui sont récompensés. Et là, c'est en toute innocence que nous on a juste fait une shortlist en fait.
Voilà.
Ce que tu nous as demandé, ce que Didier a demandé donc à l'équipe.
On n'a pas du tout participé à la délibération. Ils se sont enfermés dans une pièce isolée. Il y avait juste un membre du conseil général qui était présent pour voir si tout se faisait dans les règles. Donc je pense que c'est un vrai prix objectif, tout à fait, qui correspond tout à fait aux préoccupations, je crois, des jeunes lecteurs d'aujourd'hui.
Accessoirement, on est là à Angoulême, mais ce n'est pas que pour rigoler ou pour congratuler des auteurs, c'est aussi des fois pour aigriter,
qu'est-ce que c'est que ça?
Pour gratiner,
le spécialiste.
Ah, je suis désolé.
Il y a une maxime, quand ça gratte, il gratte.
Oui, c'est vrai.
Oui, quand ça gratte, on gratte, oui. Ce qui veut dire que, en fait, dès qu'il y a un truc un peu intéressant, on va aller voir un peu plus loin, plus profond, pour essayer de de voir s'il y a une petite polémique à en retirer.
Voilà, alors la première polémique, je l'ai faite tout à l'heure pour lancer un peu cette seconde partie, c'est cette présidence bicéphale. Je ne sais pas quel est votre avis, est-ce qu'il fallait vraiment deux présidents pour courir tous les événements qui ont lieu pendant le festival? Est-ce que deux, c'est mieux?
C'était logique, parce que en fait, Dupuy et Berbérien ont toujours signé ensemble. Hein, c'est Comroux, Combalusier, ce sont des mots associés. Et donc, s'il fallait donner un prix, d'abord, on a beaucoup de difficultés à savoir qui fait quoi dans le duo.
Même eux, à mon avis.
Donc, puis c'est original. Moi, j'étais totalement pour ce prix. D'ailleurs, j'en suis d'autant plus pour que je les connais depuis très longtemps. J'ai même été leur premier éditeur.
Donc, qui n'a pas travaillé pour Didier Passamonique.
Donc je me sens un peu couronné finalement grâce à leur élection.
Oui, chacun fait des albums séparément, mais leur œuvre commune est indissociable. Ils ont, il y en a un qui a signé des albums chez Cornelius, autre chez Futuropolis, mais ils sont vraiment indissociables et on les retient tous les deux parce qu'ils font une œuvre commune.
Et c'est pas parce qu'ils font une œuvre commune qu'elle est ordinaire.
Non, mais je trouve que c'est d'ailleurs tout l'intérêt de pouvoir se dire deux auteurs peuvent collaborer mais pleinement et pouvoir être récompensés, je dirais, par un grand prix. On n'est pas obligé de devoir se dire je dois travailler seul comme auteur et ne pas pouvoir avoir la confrontation du regard d'un autre parce que ça va m'évincer, je dirais, d'un retour public ou voire même d'un retour de la profession.
Oui, ceci dit, c'était une présidence bicéphale, mais enfin ça s'est pas ressenti. En tout cas, c'était une expo avec deux personnes, mais il n'y a pas eu quoi que ce soit qui marquait que c'était deux personnes qui avait le prix ou
d'où l'intérêt de dire effectivement on est bien sur un groupe d'auteurs qui le considère comme une signature.
Et je voudrais dire, l'année dernière j'ai interviewé Stan et Vince qui sont les auteurs de Chrono Kid chez Glénat. Ils étaient tout heureux que ce soit Dupuy et Berbérian parce que eux aussi signent à deux, et donc Dupuy et Berbérian ont ouvert une voie. Et peut-être que cette année, l'année prochaine, ou dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura de nouveau un nouveau duo qui sera.
C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas donné, qu'ils ont dû donner un prix spécial à Uderzo, parce qu'il faudrait le donner à combien? 14?
Non, mais attends, moi il y a un truc où je trouve qu'on devrait rebondir sur une occasion, c'est que pourquoi ne pas donner le prix à un couple dessinateur-scénariste? Voilà. Ça aurait beaucoup plus de sens parce que...
Oui, c'est vrai que c'est un sujet régulièrement qui revient.
Les scénaristes ne sont pas du tout récompensés à leur juste mesure à Angoulême. Goscinny n'a jamais reçu de prix, Charlier non plus. Je trouve ça tout à fait scandaleux. Et donc, j'aimerais bien, moi, qu'il y ait des présidences bicéphales avec un scénariste attaché à un dessinateur.
Ce qui permettrait d'avoir un scénariste primé avec un dessin d'affiche original.
Absolument. Je trouve que l'organisation du festival manque d'imagination sur ce coup-là.
L'organisation du festival. Oui, pardon, Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est sur ton. Ok. L'organisation du festival cette année a tenté de mettre, de faire ce qu'elle a pu, sachant qu'un de ses partenaires a failli lui faire faux bond, c'est la SNCF, puisqu'il y a eu donc la journée d'action syndical jeudi dernier.
Ouais, mais enfin, je pense pas que ce soit la faute de la SNCF.
Non, c'est plutôt c'est en réaction au climat social. Finalement, la plupart des trains sont arrivés, ceux qui en tout cas devaient passer par Angoulême.
Ça a quand même cafouillé pas mal parce que ça a créé, je dirais, un espèce de grand flou artistique au niveau des auteurs. Ils sont tous posé beaucoup de questions à la façon d'arriver. On a pu remarquer jeudi qu'effectivement pas mal d'auteurs qui devaient être présents ont eu du mal ou n'ont pas pu arriver à l'heure qui était prévue. Donc ça n'a pas aidé, à mon avis, à lancer le festival la bonne augure.
Il y en a beaucoup qui sont partis avant. Qui sont arrivés mercredi, et ceux qui sont quand même partis jeudi ont réussi à atteindre, à avoir un train en changeant leur billet. Le Figaro, je crois, estimait que jeudi il y aurait 60% des trains qui circuleraient normalement, et je pense que ça a été le cas.
D'accord.
Je connais l'exemple d'auteurs qui sont allés en première classe, Parce que l'avantage des jours de grève, c'est que les contrôles sont un peu moins réguliers. Ils ont profité de la première classe au prix de la deuxième. Donc je devrais peut-être pas le dire, mais en tout cas...
On voit les habitués risquer directement. Didier nous met en avant.
Voilà. Ils ont été surclassés, voilà.
En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que les grèves n'aient pas entraîné une baisse de la fréquentation cette année, puisque le festival bénéficie d'une météo exceptionnelle et on peut dire que même jeudi, c'était vraiment...
Non. Alors il y a une théorie pour ça. En fait, jeudi, il y avait une grosse manif. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont défilé dans Angoulême.
30 000. Hein.
Et moi, ma théorie, c'est que c'était en fait des gens qui venaient un peu en repérage pour voir où étaient les bulles. et qui ensuite, après la manif, sont allés faire dédicacer leurs albums. Donc voilà ma théorie.
En même temps, le festival a commencé, je vais dire, par une note un petit peu triste. Il y a eu la disparition de Claude Moliterni, l'un des trois fondateur ou quatre.
Alors, ça c'est le Belge qui parle. Il y a un truc qui est frappant.
Non, vous êtes trois Belges.
Ou cinq.
Non, mais d'abord, précisons qui est Claude Moliterni. Claude Moliterni est un homme absolument central dans l'évolution de la BD en France, dans la mesure où il a été l'acteur des premiers clubs de bande dessinée dans les années 60. Mmh. Il est le découvreur d'Hugo Pratt en France. Hein. C'est lui qui a introduit Hugo Pratt chez PIF en 1967. Et puis, il a été le fondateur non seulement du festival d'Angoulême, mais également de Luca en 65. Et derrière, il a fait plus de 200 expositions, dont la plus célèbre est une exposition de 67 qui s'appelle « Bande dessinée et figuration narrative » et qui a joué un rôle absolument crucial parce que c'est une exposition qui a permis de crédibiliser la bande dessinée dans les milieux de l'art parce que ça se passait au Musée des Arts Décoratifs. Cette même exposition a été ensuite à Bruxelles au Musée Royal d'Art et d'Histoire. Donc c'était la première fois finalement qu'on exposait la bande dessinée comme un art.
Est-ce qu'il a été un petit peu justement à l'origine de l'expression le 9e art?
C'est pas lui, c'est Claude Belli en 1964 qui l'utilise pour la première fois. Donc on peut dire qu'il a aidé à le populariser. Ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre que le festival d'Angoulême est une émanation locale parce que Francis Groux était donc un fan de bande dessinée locale à Angoulême. Mais pour que le local puisse devenir national et ensuite international, il faut d'autres acteurs. Il faut un politique. Ça, c'est le deuxième fondateur. Donc, je vous ai parlé de Francis Groux, qui est un passionné de BD. Le deuxième acteur, c'est Jean Mardiquian, qui est un politique, qui est un politique local, qui vient d'ailleurs de terminer sa carrière politique, mais qui a fait une carrière formidable. Le troisième, c'était Claude Moliterni, qui était l'homme, on va dire, de la BD, parce qu'il était éditeur chez Dargaud. Et donc, c'est lui qui a amené l'industrie, finalement, dans cette... Et puis, oui, il y a un quatrième larron. C'est d'ailleurs caractéristique de voir que quand Claude Moliterni est mort, le festival d'Angoulême a publié sur son site la photo des fondateurs. Et sur cette photo des fondateurs, il y a un quatrième larron. Et ce quatrième larron, on a un peu oublié que c'est André Le Borgne. D'ailleurs, les gens du festival ne savaient pas parce que la photo n'est pas légendée. On a oublié le nom d'André Le Borgne. Or, André Le Borgne est un des premiers fondateurs de clubs de bande dessinée en Belgique dans les années 60. Il est aujourd'hui passé totalement dans l'oubli, mais il joue un rôle absolument crucial parce que ce qui a fait le succès du festival d'Angoulême, ce qu'il a institutionnalisé, c'est le fait que les grands auteurs belges comme Hergé, comme Franquin, comme Tillieux, comme Jigé venaient régulièrement, et c'était le seul festival où ça se passait comme ça, venaient régulièrement en Charente, et ces gens-là ont crédibilisé la bande dessinée. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, la bande dessinée était principalement belge.
J'aimerais souligner aussi que Claude Moliterni, tout comme Monsieur Mardiquian, Claude Moliterni était toujours très actif dans le monde de la BD, continuait à organiser des festivals ça et là. Je pense qu'il a fait partie de l'organisation du festival d'Aubenas.
Absolument, il était fondateur du festival d'Aubenas, de même que Jean Mardiquian a fondé récemment le premier festival de bande dessinée à Erevan, en Arménie.
Tout à fait. Et dont la remise du prix, d'ailleurs, a eu lieu il y a une heure, pas très loin d'ici, donc au musée de la bande dessinée.
Ce ne sont pas, ou que ce n'étaient pas des vieilles barbes, ce sont des personnes, ou c'était des personnes qui étaient toujours passionnées, et qui sont toujours passionnées, et pleines de vitalité.
Accessoirement, parce que bon, quand même, c'est vrai que la disparition de Claude Moliterni est une perte, mais ça n'est pas une perte totale. Le festival en est à sa 36e édition. Est-ce que c'est une affaire qui marche ?
Oui, c'est une affaire qui marche. J'ai fait un article il y a deux jours qui s'intitule Angoulême, virgule, hélas. Qui explique que Angoulême est devenu totalement incontournable, même si on veut pas y aller pour plein de raisons, parce qu'un dessinateur déteste les chasseurs de dédicaces, ou parce que un éditeur ne supporte pas de se retrouver dans le palmarès, ou de ne pas se retrouver plus exactement dans le palmarès. En dépit de ça, ils sont obligés de venir. Donc oui, Angoulême un peu hélas, mais Angoulême heureusement, parce que c'est quand même le grand événement de la BD dans l'année.
C'est vrai qu'en plus, il y avait Run tout à l'heure qui était présent, dont le patron Tot, le patron de Ankama de Ankama Édition, avait annoncé au micro du Super Weekend qu'il ne viendrait pas.
Oui, ben lui ne vient pas, mais son équipe est là, ils ont un stand.
Ils ont un stand dans les bulles des éditeurs et pas à l'écart.
Voilà, ils ont un stand de 50 mètres carrés, voilà, donc ils sont présents. On est obligé de venir, c'est devenu incontournable. Et donc, oui, si Angoulême est las, de toute façon, faut se le farcir.
Ouais, je pense qu'effectivement, on a pu remarquer lors des jours qui sont déjà passés, en rencontrant des auteurs, que même s'ils nous ont avoué à demi-mot que ça leur faisait pas toujours plaisir pour diverses raisons personnelles ou, je dirais, médicales par rapport à leur famille, il n'y avait pas moyen d'y échapper. Il fallait être présent pour le public, bien entendu. On peut comprendre l'attente du public, mais Angoulême est vraiment devenu, je dirais, l'événement annuel qu'on ne peut pas manquer.
Et ceux qui ne sont pas présents dans les bulles, c'est-à-dire qui n'ont pas un stand dans lequel ils accueillent le public et les auteurs, sont présents aussi, sont souvent présents dans une autre bulle qui s'appelle le marché des droits internationaux, où là, des contrats se négocient pour la revente des droits des albums à l'étranger ou pour la revente, par exemple, des droits audiovisuels.
Et du point de vue du public, est-ce que si on est fan de bande dessinée mais pas automatiquement de BD franco-belge, est-ce qu'il faut venir à Angoulême ?
Est-ce qu'il faut ?
Est-ce que ça vaut le coup ?
Mais à partir du moment où on a envie de transcender peut-être la lecture pour approcher l'auteur, je pense que quand on est un féru d'un art, on a parfois envie d'arriver, de pouvoir approcher l'auteur pour lui demander, lui poser des questions et traduire peut-être son propre sentiment. Je pense qu'un livre vit parce que le lecteur lui insuffle. Je crois que c'est ce que tout auteur recherche. Donc à partir du moment où cette rencontre est possible, je peux comprendre qu'effectivement un lecteur assidu ait envie de faire des kilomètres, voire des centaines de kilomètres pour venir, ne fût-ce que 10 minutes, parler un petit peu avec un auteur qui le fait vibrer pour le faire partager, je pense, cette passion de la lecture. Oui, et c'est la grande richesse, à mon avis, effectivement, d'un festival comme celui-ci.
Oui, mais par exemple, si tu es avant tout fan de manga, tu ne t'intéresses absolument pas à la BD franco-belge, est-ce que ça vaut le coup de venir pour passer ton temps au manga building, par exemple ? Est-ce que ça vaut pas plutôt le coup d'économiser pour la Japan Expo ?
Moi, je pense que le vrai fan de manga va à la Japan Expo, mais en même temps, le manga building fait des efforts méritoires. Hein. Il y a des expos, il y a des auteurs qui sont présents. Le manga n'est pas oublié, même si pour le festival, c'est un rattrapage parce qu'ils ont vraiment raté le tournant du manga. Il faut dire les choses comme elles sont. Et le travail est méritoire. Dans l'équipe, il y a notamment... West Lawrence, qui est le fondateur d'Animeland, qui est en back office, qui s'occupe de l'organisation des événements manga. Donc non, on peut pas dire que on peut pas dire qu'ils aient pas fait leur travail. En revanche, ce qui est frappant à Angoulême, par rapport à Japan Expo, c'est qu'il n'y a pas le côté fun. C'est-à-dire que, par exemple, à Japan Expo, dans les travées, on voit un nombre important d'otaku déguisés en dans leur personnage de manga. Ouais. Et donc, c'est des cosplayers. C'est une dimension qui n'existe pas à Angoulême.
Qui semble ne pas être dans la volonté, justement, de l'équipe
artistique. Voilà. Et c'est dommage parce que il y a un côté à Angoulême qui est un peu irritant, sur lequel on tape chaque année sur le clou, c'est le côté institutionnel. C'est-à-dire, on a l'impression que ne peut venir à Angoulême que des gens qui sont académisables, appelons ça comme ça. Tandis que à Japan Expo, on sent très bien qu'il y a une véritable dimension ludique, notamment apportée par les cosplays.
C'est plus fraternel.
Voilà.
Il y a un aspect plus chaleureux.
Et puis, c'est peut-être plus jeune aussi.
Bon, mais maintenant, moi, j'aimerais rajouter juste une petite chose, c'est que, mis à part, je dirais, la rencontre avec les auteurs et les expositions, qui sont sans doute deux grandes mamelles du festival, comme tout festival qui se doit, il y a aussi le fait de pouvoir
On utilise ce genre d'expression, j'imagine les mamelles.
Écoute, tu diras ça à Romain Hugo, qui parlait tout à l'heure de ces femmes et qui disait qu'elles étaient avec volupté. Donc, je pense qu'il y a aussi un autre attrait, c'est de pouvoir arriver et être dans la plus grande librairie du monde, en tout cas même temporaire, et de pouvoir se dire si j'aime la bande dessinée, qu'elle soit en manga ou qu'elle soit, je dirais, sous diverses formes, comme on peut la décliner en comics, en franco-belge et en zovurt, pardon pour le petit mot néerlandais, enfin, je salue nos amis, je veux dire que c'est aussi une façon de pouvoir alors se balader dans les allées, oser aller rencontrer, aller ouvrir des livres, des choses qu'on voit rarement, voire parfois même jamais en librairie, et donc le fait de pouvoir vivre sa passion et de la faire vivre d'ailleurs, la partager avec les autres, et je pense que c'est aussi un des grands atouts d'un festival comme celui-ci.
Est-ce qu'il n'y a pas des côtés agaçants dans le festival,
les émissions de radio.
Oui, en plus, partenaires France Inter se nourrissent un petit peu partout, partenaires du festival. Ouais. Hein,
nous, au moins, on n'assomme pas les festivaliers en étant diffusés un peu partout avec les haut-parleurs. Hein.
Oui, on ne dit pas toujours non plus, enfin, j'espère qu'on dit moins de bêtises aussi que ce que les haut-parleurs annoncent comme des possibilités que Steven Spielberg vienne répondre aux questions des journalistes.
Avec Peter Jackson.
Avec Peter.
Alors, justement, ce sera un sujet dont on parlera, mais tout à l'heure.
Les Dupont et Dupont du cinéma.
Voilà, les adaptations au cinéma des bandes dessinées. Il y a une chose pour laquelle il y a des auteurs qui ne supportent pas les séances de dédicaces, et c'est malheureusement c'est pour les chasseurs de dédicaces. Est-ce qu'ils en font pas un peu trop?
Je suis désolé, tu peux jamais arriver et commencer à diminuer l'envie de quelqu'un. Je pense que chacun trouve son plaisir là où il a envie de le trouver ou là il peut le trouver. Effectivement, il y a des gens qui ne vivent que par les dédicaces, mais je crois qu'il faut pouvoir l'accepter. Je peux comprendre pour un auteur lorsqu'il voit 15 fois la même tête par an de la personne qui lui parle peut-être même pas et qui attend juste qu'elle termine son dessin et qui limite tire un peu la gueule, pardon du terme, parce que le dessin n'est pas exactement comme il voulait, etc. C'est vrai que peut-être qu'on brime, je dirais, une rencontre potentielle avec un autre lecteur qui a peut-être fait autant de kilomètres mais n'a jamais vu l'auteur, mais en soi c'est inaltérable au niveau d'un festival.
En même temps, la dédicace, à mon avis, est un moment privilégié. C'est le moment où le lecteur, qui est le lecteur d'une série ou d'une histoire, découvre que derrière cette histoire il y a un auteur. Et ça, c'est un moment magique qui est sacralisé par le dessin, c'est-à-dire que voir un ensemble de traits qui tout à coup prend sens et qui devient un personnage un avion, comme on évoquait tout à l'heure.
Je te rappelle que les femmes sont plus compliquées à dessiner que les avions. Hein,
il y a des auteurs à succès qui ont très bien compris justement cette dimension avec le lecteur qui n'est pas un chasseur de dédicaces qui vient à Angoulême ou qui vient dans un festival pour le rencontrer. Certains auteurs à succès, je pense à Master, je pense à Buchet et à d'autres, organisent des tirages au sort 2 heures avant l'heure de la dédicace pour tirer 20 ou 30 20 ou 30 numéros parmi une centaine de personnes.
C'est vrai, ça fait quand même beaucoup de frustrés, mais j'avoue que c'est une technique qui a le mérite d'exister. Il y a aussi d'autres techniques, on se rappelle, je dirais, des petits bateaux de Gregor Zrozinski, qui en son temps, à un moment, ne faisait plus qu'un petit voilier, je dirais, dessiné en 30 secondes. Mais non, mais non, je veux dire, il n'y a pas de quoi être drôle. À partir du moment où il fallait contenter tout le monde, c'était aussi une technique. Mais là, le moment donc, de la rencontre avec le public était en fait réellement présent.
Eddie Pape avait un cachet, lui. Il avait son tampon.
Philippe Franck fait encore ça, il y en a d'autres hein, qui ont leur tampon déjà, je dirais, préfet. Compliqué d'arriver et de remplir ces différentes missions de contact et en même temps de pouvoir essayer de contacter tout le monde.
Avec Thomas, on s'est amusé à observer dans les files de dédicaces non seulement le comportement animalier, mais aussi ce qui fait le chasseur de dédicaces en lui-même. Ouais,
ceux qui laissent leurs traces en laissant des sacs et en partant pendant deux
fait.
Heures.
Tout à fait. Et même
tu les connais toi aussi.
Toi
aussi.
Non, il a été comme ça en fait. Voilà,
non
Nicolas,
honte à moi.
Nicolas est toujours un chasseur de dédicaces, il faut
hardcore.
Le savoir.
Hardcore
non
même.
Seulement nous avons fait une analyse,
une
un inventaire, on a fait une liste, mais on en a fait un classement. Et sur ces classements, nous en avons gardé 5.
Qui dit 5 dit...
Le top 5. Numéro 5.
Alors, le cinquième accessoire dans le classement que doit absolument avoir un chasseur de dédicaces, c'est... le bloc-notes, parce que il faut savoir qui dédicace où, dédicace quoi et à quelle heure. Donc le seul moyen, c'est de noter, de faire un agenda, donc avoir un bloc-notes.
Numéro 4,
eh bien c'est le siège pliable. Puisque c'est vrai que c'est pas très évident de s'asseoir par terre ou essayer de se faire marcher dessus et c'est vrai que certains on a l'impression que certains aussi ont pris des bonnes sueurs donc il faut pouvoir supporter ça en s'asseyant tranquillement.
Numéro 3.
Il s'agit bien évidemment du kit déjeuner parce que ils sont là à faire l'attente depuis 4 heures donc ils ont forcément la barre de Mars, deux sandwichs et une bouteille d'eau pour faire passer ça. Pendant que le dessinateur, lui, il a pas le temps de manger, il est en train de dédicacer et il a une foule monstrueuse qui est juste derrière.
Numéro 1.
Non, pas du tout.
Sa merde là, hein,
Mais c'est le live, il a un ordinateur trop petit, il a des trop gros doigts.
En numéro 2, c'est la poche d'urine, la pochette à urine, c'est tout simplement parce que après avoir passé la bouteille d'eau d'un litre et demi.
Donc je rappelle que la rédaction.
Ce serait dommage quand même de quitter sa place alors qu'on est seulement à 30 mètres du dessinateur qu'on convoite tant.
Je rappelle que le comité de rédaction est invité, hein, donc c'est pas nous qui avons écrit ceci. Et enfin. Et l'ultime accessoire indispensable pour tout chasseur de dédicaces hardcore qui se respecte, c'est sa copine, puisque quand on est deux, on a deux dédicaces.
Sauf que le chasseur de dédicaces vient pour dédicacer son bouquin, son édition originale pour lui, et un pour sa copine, et la copine qui est juste derrière, pour elle et pour son petit copain. Comme ça, ça en fait quatre.
Ouais.
Mais vraiment. En fait, attention, ce n'est pas vraiment sa copine. Sa copine... et elle aussi chasseuse hardcore de dédicaces et attend chez un autre éditeur.
Donc en fait c'est des faux couples.
Voilà exactement. Mais en tout on a 8.
Les enfants là-dedans.
Les enfants ont perdu patience depuis longtemps et sont à l'extra-boule débile.
C'était une bande dessinée qui s'appelait Les Collectionneurs de je ne sais plus qui.
De Janin et Delport.
Voilà, où ils disaient qu'il ne fallait surtout pas avoir d'enfants parce que sinon, adieu les originaux. Il s'agissait évidemment d'un top qui a été exclusivement conçu par l'équipe du Supplément Week-end et dont l'équipe d'Actua BD se désolidarise complètement.
Non, moi je suis d'accord.
Un petit mot d'humour, c'est tout.
Accessoirement, l'équipe d'Actua BD est un magazine d'investigation, je vais dire, sur la bande dessinée, tout le reste.
On fait des enquêtes avec des lunettes noires, on suit les gens, c'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Il y a eu des points importants qui ont rythmé l'année éditoriale toute cette année. Bien évidemment, il y a eu la disparition de certains éditeurs, les rachats de d'autres, mais il y a eu aussi Ciné qui s'est fâché avec son grand pote Philippe Val.
C'était l'événement de l'été, hein, le feuilleton de l'été, on peut dire, hein, puisque Ciné avait écrit dans Charlie Hebdo un édito qui n'a pas fait plaisir à Philippe Val. Le point de départ a été en fait une dénonciation de Claude Ascolovitch sur une grande radio nationale et qui a dénoncé un article de ciné en le disant qu'il était antisémite dans un journal qui ne l'était pas. Dans cet article, il y avait une fine allusion au mariage prochain de Jean Sarkozy avec une riche héritière, je cite, vulgaire, pardon, une riche héritière, virgule, pardon, juive. Et donc ça a beaucoup choqué. Il y a eu tout un mouvement de solidarité qui s'est fait autour de Ciné, qui s'est fait virer de Charlie Hebdo. Ciné a porté plainte contre Claude Ascolovitch. L'audience a eu lieu cette semaine et le jugement va arriver bientôt. Le parquet a demandé la relaxe de Claude Ascolovitch et par ailleurs, cette semaine encore, Ciné est cette fois-ci passé à Lyon, devant le tribunal de Lyon, sur une plainte de la LICRA. Et là, le parquet a considéré que ce qu'avait dit Ciné n'était pas antisémite et donc il est probable que les deux jugements vont arriver d'un côté vers la relâche d'Ascolovitch et d'un autre côté
la relaxe
d'Ascolovitch et d'un autre côté je pense que Ciné va se faire relaxer à Lyon, donc ça va faire un point partout dans chacun des camps.
Vous sentez que Didier marche d'ailleurs sur des œufs en citant bien qui a dit quoi, parce que toute cette affaire est
tout ça sur des
redicots.
Voilà, c'est
mais retombe sur tout le monde d'ailleurs, donc faut vraiment bien faire attention. C'est pas toujours évident effectivement de trouver les bons termes et de pouvoir suivre ce type, je dirais, d'affaires et d'essayer de autant être sur l'actualité, mais sans tomber, je dirais, dans le souci.
Comment vous voyez ça, parce que bon, Charlie Hebdo, je ne sais pas si c'est distribué en Belgique.
Non, mais on a aussi le gaz et l'électricité. Oui.
non, mais je veux dire, tout ça sont des affaires qui sont purement franco-françaises.
Non, je suis pas d'accord. Je veux dire, Ciné Hebdo et Charlie Hebdo sont tout à fait trouvables dans des librairies, je dirais, belges, bruxelloises.
Et puis l'audience d'ActuABD est bien plus large.
Non, sur le net.
Voilà, donc on est lu de l'autre côté de la planète, hein.
Sans avoir eu la moindre volonté de quoi que ce soit envers la Belgique. D'ailleurs.
Non, il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est juste un petit mot d'humour. Mais effectivement, je pense qu'on a tous un petit peu nos préférences et nos sujets sur lesquels on se sent plus à l'aise. C'est le gros avantage d'être une grande équipe de rédaction, d'être un petit peu partout, que ce soit, je dirais, en francophonie, voire même dans des pays parfois qui ne parlent pas directement le français, mais qui permettent de rapporter donc des propos, en tout cas, je dirais, des intérêts de la bande dessinée. Je pense par exemple au côté finnois qu'on a évoqué dernièrement en opage, enfin qu'on va évoquer, mais
j'ai fait un sujet sur la bande dessinée turque par exemple. Voilà.
Mais effectivement, donc on se retrouve avec des sujets par exemple que Didier va aborder préférentiellement parce qu'ils sont plus à l'aise au niveau de ses connaissances ou au niveau de ses contacts, d'autres choses qui vont être abordées par d'autres membres, par d'autres rédacteurs, parce qu'effectivement on sent à ce moment-là, je dirais, une touche, une connaissance qui est plus tactile.
Alors non, mais j'essayais en fait de tendre la perche. Je disais que tout simplement les Belges étaient les Gaulois les plus braves, dixit César, et qui dit Gaulois dit Astérix.
Quel enchaînement!
J'ai passé du temps à l'écrire.
J'ai vraiment cru que t'allais me faire un truc pourri dont on t'avait dit, dont on voulait pas parler. Grosso modo, j'ai fait exprès de nier l'affaire.
Mais finalement, est-ce que ces deux peuples.
L'affaire Astérix, tu la nies?
Oui, tout à fait.
Mais est-ce que finalement ces deux peuples ne sont pas aussi fous les uns que les autres? La moralité.
Bon, moi je pense qu'on est un peu moins fous dans le nord que dans le sud.
Bon, donc en tout cas sur Astérix, effectivement, ça a été, je dirais, pour ces dernières semaines, une affaire qui a été assez au cœur de l'actualité. Et donc, bien entendu, ActuBD ne pouvait pas faire l'impasse sur tout ce qui avait été dit, que ce soit chez nous ou en tout cas via les autres médias d'information. Hein, je pense entre autres à l'émission d'RTL de Monique Younes. Mais bon, pour donner un bref résumé, Uderzo, donc je parle bien sûr d'Albert, a depuis 30 ans toujours proclamé que les aventures du petit Gaulois donc s'arrêteraient après à son décès, comme Hergé l'avait bien entendu demandé, on sait, je dirais, tout le battage, je dirais en tout cas qu'il y a déjà autour de ça. Maintenant, chacun a son avis. Ce qui s'est passé, c'est que en réalité, donc les éditions Albert René, dont Albert Uderzo est donc majoritaire, ont été cédés partiellement avec donc les parts d'Anne Goscinny à Hachette, vendu, on s'entend bien, et avec cette possibilité donc de pouvoir continuer les aventures d'Astérix, ce qui est effectivement a provoqué pas un tollé, ou en tout cas un grand remous, parce que c'est ce qu'on peut appeler un revirement de situation et d'opinion.
Parce qu'il a Albert Uderzo a renié tout ce qu'il avait dit ces 20 dernières années.
J'ai ici dans cette enveloppe une lettre d'un vieux lecteur.
Non, effectivement, c'est vrai que cette lettre de lecteur a été évoquée.
C'est un peu Cyril Collard, hein, là.
Non, mais c'est vrai que cette lettre de lecteur avait été évoquée, autant pour dire qu'il ne voulait pas continuer, et maintenant pour dire qu'il voulait continuer. Maintenant, je pense que on est un auteur, quand on est un grand auteur comme Monsieur Uderzo, on a le droit d'avoir toutes les opinions qu'on peut avoir. Après tout, c'est son héros. Enfin, avec René Goscinny, on s'entend bien, mais je veux dire, c'est quand même lui qui arrive et qui porte donc les aventures d'Astérix. Après, je crois que tout le monde aura son opinion.
Mais il y a là l'opposition entre deux droits qui font partie du code civil. Il y a le droit d'auteur et effectivement le droit de l'auteur de disposer de son œuvre, hein, puisque une œuvre
qui lui ne peut être cédée d'ailleurs,
qui est inaliénable, comme dit l'article 1 du code sur le droit d'auteur.
Quand je vous disais que Didier était très fort sur ces trucs.
Ah, non.
Et puis à ça s'oppose et c'est un drame familial. La notion de transmission, d'héritage, il y a un problème de transmission d'entreprise et l'âge avancé du capitaine, puisque Uderzo a 81 ans, il a une fille unique et cette fille unique se retrouve répudiée, on peut dire, par son père. Et donc, au-delà des considérations de fans et des considérations juridiques, il y a un drame personnel dans cette affaire. Qui donne aussi une dimension grand public, parce que finalement, dans chaque famille a vécu ses problèmes d'héritage. On sait que les héritages divisent les familles, et donc oui, c'est singulièrement touchant et frappant de voir qu'un mythe national comme Astérix peut diviser une famille. C'est le coup de barre là.
Et toutes les informations de toute façon sont sur le site Actua BD pour le développement actuel, mais aussi le développement futur.
Bien sûr, j'ajouterai un petit mot pour dire que peut-être à cause d'un drame familial, on va avoir, je dirais, de nouvelles aventures d'Astérix qu'on aurait peut-être ne pas pu avoir si jamais ce drame familial n'aurait pas eu lieu.
T'as vu les derniers?
Oui, vu les derniers. Est-ce que c'est vraiment un bien?
Je sais pas, j'ai pas lu les derniers. Je suis désolé.
Est-ce que c'est pas ça le drame justement?
Oui, parce que en fond, toute l'hypocrisie de l'histoire, c'est que les derniers albums d'Astérix ne sont pas entièrement de la main d'Uderzo, et donc le mythe de l'auteur unique est aussi un petit peu ébréché dans cette histoire. Il y a une part d'hypocrisie quand même dans toute l'affaire.
L'un des dossiers qui vont arriver, ça va être Watchmen, l'adaptation de la bande dessinée d'Dave Gibbons et d'Alan Moore. Est-ce que de ce côté-là, à regarder tout ce qui est sorti ces derniers temps, Hollywood ne biberonne pas un petit peu trop au comic book ou à la bande dessinée?
Mais non, bon, soyons clairs, je veux dire, la bande dessinée, je pense, monte de plus en plus au niveau des lectures et au niveau donc des échanges donc des personnes. Hollywood, et pour autant que les producteurs français ou autres, je dirais, sont à la recherche des choses qui vont marcher. Je veux dire, quand on investit beaucoup d'argent dans un film, il faut absolument que ce film donne. À partir du moment où on peut avoir, je dirais, la certitude d'un scénario ou déjà, je dirais, de héros qui sont connus et dont on a prouvé donc la qualité au niveau de ce qui a déjà été publié, je pense que on part sur l'idée d'un pari qui est quasiment gagnant. Donc effectivement, je crois qu'il y a vraiment de gros avantages donc à partir dans cette direction-là. Maintenant après, bien entendu, il reste la qualité de l'adaptation, le fait de trahir ou de ne pas trahir donc une œuvre avec toutes les possibilités qu'on connaît, et puis bien entendu l'avis du public.
Puis là, on parle seulement d'Hollywood, sans parler évidemment des adaptations comme Largo Winch. Mais pour Hollywood, il faut dire que à l'époque de Batman 4, ça avait refroidi tous les producteurs qui s'étaient dit on va plus produire du tout d'adaptation de comics parce que de toute façon le public, eh ben il marche pas. Ils sont pas interrogés sur la qualité du fameux film de Schumacher. Et c'est justement la première adaptation des X-Men qui a relancé la machine et qui, avec The Dark Knight, a commencé à atteindre des sommets quand même.
Mais enfin, tout marche par Sinus the Weed, hein. Je veux dire, si ça se trouve, dans 5 ans, tu vas avoir aussi un X-Men 24. Tout le monde va dire que ça va être un petit peu trop et ça va arrêter jusqu'au moment où quelqu'un va dire j'ose et je recommence. Donc là, tu l'auras toujours.
Enfin, cela dit, actuellement, on est au top de la vague. Justement sur Actua BD, en octobre dernier, on a fait une petite enquête et on a rencontré à Francfort, qui est le salon du livre, un salon international du livre, un monsieur qui s'appelle Chuck Rosensky. Et Chuck Rosensky est un des grands libraires, grands vendeurs de comics américains. Il a fait partie du board de Marvel à une certaine époque. Et Chuck Rosensky expliquait une anecdote qui a vraiment défrayé la chronique. C'est qu'un jour, il y a un gars qui est venu le voir avec un comics en lui disant « Est-ce que vous voulez diffuser mon comics ?» Il dit « Bon, bah, très bien, je vous en prends 20. » Et l'autre dit « Bah non, vous allez m'en prendre 1000. » Chuck lui dit « Mais attendez, votre truc, il est pas terrible. Je pense que j'aurai que 20 clients en face, donc je vois pas pourquoi je vous en achèterai 1000. » Et le type lui a dit, vous allez m'en acheter 1000 parce que pour chaque exemplaire que vous m'acheterez, je vous donnerai $1 en plus en plus du coût. Donc ça vous coûtera, non seulement ça vous coûtera rien, mais en plus vous recevrez $1 de plus par exemplaire acheté. Alors, Chuck Rosensky, en bon commerçant, a acheté les 1000 exemplaires. Il s'est dit qu'il allait les foutre à la poubelle. Et en fait, l'objectif de ce monsieur, c'est qu'il a fait la même opération avec les autres distributeurs. Résultat, pendant 3 jours, son comics, qui était nul, est arrivé au top 1 des ventes. C'était le délai nécessaire pour le montrer à Steven Spielberg, qui a acheté les droits du comics en question. Et donc la conclusion de Chuck Rosensky, c'est que le marché du comics s'écroule complètement aux États-Unis, mais il est devenu le secteur de recherche et développement du cinéma. Et donc, la bande dessinée, c'est aussi ça. Et ces informations-là, on les trouve sur actuabd.com.
Voilà.
Tu parlais de Spielberg. On en est au chapitre des adaptations de BD. On a parlé de Dupont et Dupont tout à l'heure et de Peter Jackson. Donc les amateurs ne sont pas sans connaître que Peter Jackson et Steven Spielberg sont en train de bosser sur l'adaptation cinéma de Tintin en technique motion capture. Donc c'est la même technique qui avait été utilisée sur le film La Légende de Beowulf. Durant ce festival a été présenté, il y a eu un petit message enregistré par les Dupont et Dupont, Spielberg et Jackson. Donc est-ce que l'un de vous y était?
On y était tous les deux, nous.
Effectivement, donc on a eu droit à voir ce petit moment anthologique. Alors je dis anthologique pourquoi? Parce que on a eu droit à une improvisation libre de deux très grands personnages, je dirais, donc du cinéma, à savoir donc Steven Spielberg et Peter Jackson. Et ces deux personnes étaient pas maquillées, mais en tout cas donc affublées, des chapeaux melons bien connus noirs, des Dupont et Dupont et cannes en bois à la main, pour faire vraiment un petit mot spécifique pour les festivaliers, bien sûr pour Angoulême, et en expliquant juste qu'ils étaient ravis de pouvoir donc arriver et lancer dans quelques jours les premiers tours de manivelle, donc au niveau de la technique que Thomas vient d'évoquer, et pour donc commencer donc réellement ce tournage qui, comme vous l'avez pu le voir, pour ceux qui ont lu Actua BD, a subi, je dirais, divers revers au niveau de la production, mais donc là maintenant tout est en route. Il faut quand même dire deux choses, je dirais, par rapport à cette petite blague, parce que en fait c'était vraiment un petit message très comique de la part de ces deux grands personnages. Ça donnait la mesure de leur investissement donc par rapport à ce film Tintin auquel ils croient énormément, et d'un côté le fait qu'ils l'aient fait de manière tout à fait improvisée, mais qu'ils aient pris le temps donc de pouvoir enregistrer ce message pour le festival.
Rien que mettre Peter Jackson et Spielberg ensemble devant une caméra, c'est pas un truc évident, hein.
Non, et ils l'ont fait avec énormément d'humour, ce qui donne, je dirais, leur investissement et aussi le côté j'aime pas le terme comique, mais le terme investi qu'ils ont vraiment donc dans ce Tintin. Donc il faut avouer que moi ça m'a fait une excellente impression.
Surtout qu'ils pensent aux fans et ils font pas ça dans leur coin, quoi.
On sent le respect, on sent, je dirais, la qualité, enfin vraiment autant parfois on peut arriver et tirer peut-être je dirais pas à boulet rouge, mais en tout cas sur certaines choses qui nous plaisent pas toujours, autant sur ce coup-là ça a été vraiment très bien joué.
Charles-Louis, donc c'était l'un des derniers dossiers. Il est 13h30 et du sport nous attend pour parler, et ben je vais dire, mais ben de sport du coup, hein, pour donc on va rendre l'antenne, hein, pour ce supplément week-end spécial en direct d'Angoulême dans les locaux du Conseil général de la Charente, où il y a eu donc le Conseil général des jeunes qui a annoncé à qui il remettait le prix Actua BD, donc un prix qui a été remis à Hugo et Yann pour Le Grand Duc, dont le premier tome est sorti aux éditions Paquet, et une mention spéciale à Run pour son Moutafoukaz chez Ankama, dont le tome 0 est arrivé. On l'a chroniqué au début de mois.
Voilà, et le tome 3 est en cours de fabrication.
Voilà, en tout cas, merci à tous d'être venus.
Merci à vous,
Nicolas, Charles-Louis et Didier. Merci surtout au Conseil général de la Charente de nous avoir accueillis, mais vraiment
comme
de ce
rois.
Côté-là. Non, mais il y a la logeuse avec Thomas et donc Chantal et Sabrina, avec qui chez qui on va depuis un certain temps, nous dit à chaque fois dans les Charentes, on se sent dans ces Charentaises. Ils ont vraiment une culture de l'accueil qui est impressionnante. Et c'est vrai qu'on va chez n'importe quel commerçant et ils nous reçoivent après.
Ce qui est bien, c'est qu'avec les Charentaises, on peut les ramener chez soi.
Écoute ça, peut-être, mais si je ramène une fille de plus à la maison, Chantal va me tomber dessus. Donc voilà, vous étiez sur Radio FMR, vous êtes sur Radio FMR 89.1 MHz, c'était le supplément week-end, avec en rédaction invité, en rédaction en chef invité, donc Actua BD, site d'information généraliste qui toute l'année donne, je vais dire, une information qui est surtout lu par les professionnels, hein, en fait.
Non, c'est
mais
lu
pas
par,
du tout.
C'est lu par 140 000 lecteurs tous les mois, donc il y a plus que 140 000. Donc
mais
avec 140 000, on a. Mais tous les professionnels nous lisent. Même.
Oui,
mais
ce qui donne une petite, pression quand même.
Ce qui n'est qu'une petite part des 140 000 lecteurs que nous avons.
Voilà, et dont les certaines interviews du supplément week-end sont reprises après sur Actua BD, s'ils le veulent bien, donc si Nicolas et Didier veulent bien. Jusqu'ici, vous avez eu des mots à redire.
Nicolas, Didier, Charles-Louis, parce qu'on a tout
Laurent
un comité
David,
de rédaction. Laurent Boileau qui est pas là, oui, aussi.
C'est collégial.
Bon, en tout cas, j'espère que nous aurons fait assez de lèches envers l'équipe pour pouvoir placer quelques interviews de plus. Voilà.
Ouais, on va réfléchir à la question.
On va vraiment réécouter la bande, je crois.
On ne fait plus sur bande, malheureusement. Merci à tous, en tout cas, on va entamer, je vais dire, sur la suite. Thomas, en tout cas, j'espère que tu es content. Tu as une idée de ce que tu vas faire comme programme à la suite?
Là, on va faire une interview de Stan pour Diary of Inhuman Species cet après-midi et éventuellement caler une interview pour l'un des albums qui n'a pas été retenu mais qui était nominé, qui était Altadonna.
En attendant, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire le résumé de cette émission exceptionnelle en direct d'Angoulême, je te prie?
Non, nous avons eu, sans rire, le jury jeune du Conseil Général qui a remis donc le prix Actua BD. Nous avons eu la joie et la surprise d'accueillir Romain Hugo et Ron. Nous avons eu effectivement la rédaction d'Actua BD en rédaction en chef de l'émission. Et la première émission en direct, que nous n'espérons pas que ce soit la dernière, en direct du Festival d'Angoulême.
Nom d'un Tifov plaqué or dédicacé par Lewis Trondheim, avec son petit caca en option, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, retour à la maison avec la chronique tant attendue de LOL, le film le plus nul de la galaxie. Et c'est Thomas qui a chopé la fève à l'épiphanie, qui donc va se le taper. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci à vous, ciao, bye bye. À vous la régie finale, à vous du sport.